When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bonjour, je m'appelle Alice Vaché et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Chrysoline de Gastine, la fondatrice de la marque Balzac Paris. Bonjour Chrysoline, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Bonjour, je suis ravie aussi d'intervenir dans L'Empreinte, donc c'est chouette.
Et moi du coup, je t'ai un peu regardée sur les réseaux sociaux, vu que c'est quand même ma plateforme de prédilection. Donc t'es une jeune maman, la maman de Garance et Colombe d'ailleurs, qui sont pas très loin, je crois bien, en train de regarder un film. Tu es originaire de Lille et tu vis dans le 11e.
Et je vis dans le 9e.
Dans le 9e, t'as déménagé du coup depuis ou alors l'article n'était pas mis à jour.
Peut-être qu'ils m'ont vu dans le 11e, mais j'ai toujours été dans le 9e.
Et tu vois, tu es trop VIP en fait. On te spot un peu partout, on se dit ah ça y est, elle est là. Et moi j'avais lu un truc assez incroyable sur Balzac, c'est à la base c'était une marque de nœuds papillons, c'est vrai ?
Ouais, tout à fait. À l'origine, Balzac Paris c'était une marque de nœuds papillons qu'on a créée en 2011 avec Charles et Victorien, mes deux associés, respectivement mon beau-frère et mon mari. Donc depuis le début, c'est une entreprise familiale. Enfin, avec Victor, on n'était pas encore mariés et Charles n'était pas encore mon beau-frère, mais malgré tout...
C'est devenu une entreprise familiale, en fait. C'est génial, ça, comme histoire, j'adore.
Exactement. Alors là, t'es en plein cœur de l'entreprise familiale. Et avec Charles et Victor, on s'est lancé en 2011 pour remettre le nœud papillon au goût du jour, parce qu'il revenait quand même pas mal sur le devant de la scène, mais l'offre en boutique était pas très fun, un peu désuet. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un nœud pap made in France sur mesure, dans l'idéal, avec une relation privilégiée avec le client qui nous achèterait ses nœuds papillons parce que justement, il pourrait choisir leur tissu en fonction de l'événement, etc. Et en fait, ça a connu son petit succès parce que c'était assez nouveau.
C'était en quelle année d'ailleurs ?
En 2011.
Ah, et déjà, du sur mesure en 2011, c'est bien.
Hein ? Ouais, en fait, on faisait ça à côté de notre job respectif, tous les trois. Et donc, c'était l'occasion de faire ça le soir et le week-end, en plus de nos travails de l'époque. Et ma sœur, Clémentine, qui, elle, avait une marque pour enfants qu'elle commençait à développer, nous a dit, moi, je suis prête à vous suivre dans l'aventure en tant que couturière et je réaliserai les nœuds papillons Balzac avec grand plaisir. Donc, voilà comment a commencé l'aventure. Donc, la famille, dès le départ.
Ah oui, et puis en plus, tu as même construit ta famille grâce à cette aventure. C'est quand même génial.
Ouais, c'est chouette. Non, c'est vraiment une belle histoire. Et en 2014, avec Charles, on s'est lancé à plein temps dans l'aventure Balzac. On a tous les deux quitté notre job de l'époque et on s'est dit, on a fait de Balzac Paris une marque de nœuds papillons, mais on a envie d'aller plus loin, de faire quelque chose de moins niche, un produit qui parle au plus grand nombre, et surtout garder cette dimension proche de la clientèle avec une dynamique responsable forte. Puisque on a très vite vu que les clientes étaient sensibles à cette dimension made in France, qu'ils étaient aussi contents d'être acteurs de leur consommation et de pouvoir choisir les tissus quand c'était les nœuds pap. Donc on a fait ce qu'on a appelé dans un premier temps les sweatshirts littéraires avec les couples d'auteurs célèbres. Donc tu avais la moitié pour homme, la moitié pour femme. On a eu une couverture médiatique assez sympa et donc on a été très vite rupté sur ces deux produits. Et on a vu l'engouement des gens pour un produit qui à la fois était visuellement beau, parce qu'il était brodé au fil de raie sur fond bleu marine, donc visuellement il était hyper hyper joli et un peu nouveau, mais au-delà de ça il y avait une dimension affective vis-à-vis de ce produit, parce que il y avait cette notion de couple d'auteurs célèbres, Honoré et Frances, Alfred et Georges, Jean-Paul et Simone, et donc les gens, plus qu'un pull, ils achetaient une histoire. Et ça, ça a été assez fort dans la construction de la marque parce que ça nous a vraiment donné le ton pour la suite. Pour cette marque de prêt-à-porter féminin, exclusivement, qui serait vendue donc exclusivement en ligne avec des produits qui reviendraient tous les mois en édition limitée et pour lesquels la cliente pourrait participer activement en nous disant bah tiens, ce produit-là, je l'ai adoré, j'aimerais le voir en version bleu marine, en version rose, peu importe. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Balzac. Alors, mon propos est un peu décousu, mais j'espère que vous m'avez suivi.
Ah non, mais c'est... Non, c'est très clair. C'est très, très clair. Mais quand même, il y a toujours les nœuds papillons ou plus du tout?
Non, plus du tout. Ça a été un peu un crève-cœur parce que vraiment, c'est le début de l'aventure. Mais en fait, c'est un produit qui est vraiment très saisonnier. Il revient, il repart. C'est l'essence même de la mode qui est un éternel recommencement. Et le nœud pape fait vraiment partie de ça, c'est-à-dire qu'il est d'un coup à la mode, on en voit beaucoup dans les mariages, puis tout d'un coup un peu désuet, la cravate reprend le dessus. Et comme on s'est dit, bon bah il faut être viser un public plus large, et puis exclusivement féminin ensuite, le nœud pape ensuite est parti.
Oui, donc c'est devenu la cible finalement, la femme.
Ouais, ouais.
Et tu me parlais, et donc c'est là que, puisque c'est le cœur de l'empreinte et du podcast, tu me parlais des engagements, du coup,
oui.
De Balzac, qui sont au cœur même de l'ADN de la marque. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur ces engagements et aussi peut-être leur côté évolutif, comment ils ont évolué en fonction peut-être de la demande croissante de toi, peut-être ta prise de conscience aussi. Voilà, explique-moi un petit peu le process de tout ça.
Avec plaisir. Donc, comme je vous disais, Balzac, c'est né avec...
Oh, tu sais, tu peux me tutoyer, hein.
Moi, je suis ouais, ouais, ouais. C'est né avec, comme je te disais, excuse-moi, avec cette idée d'un nœud papillon fabriqué en France par Clémentine, donc couturière derrière sa machine, donc une notion d'artisanat très fort. Et quand on s'est lancé sur le prêt-à-porter féminin, on a vraiment voulu faire perdurer ça parce que déjà, c'était important pour nous, en tant que fondateur d'entreprise, mais aussi dans nos vies perso respectives. Et au-delà de ça, c'était un élément différenciant très fort à l'époque, parce que c'était assez nouveau, en fait, hein, sur le secteur du prêt-à-porter. Il y avait assez peu de marques, en tout cas, qui ressemblaient à un Balzac, qui s'était encore lancé sur cette dimension responsable. Donc, c'était aussi un élément différenciant, on va pas se mentir. Donc, au début, tous nos vêtements étaient fabriqués en France. Ils étaient notamment fabriqués à Paris. Parce que pour Charles et moi, qui étions autodidactes, c'est spontanément les portes vers lesquelles on a été le plus vite toqué, parce qu'on était parisiens. Et donc, c'était plus facile pour nous d'aller voir ce qui se passait dans notre ville que de commencer à voyager et trouver des usines en dehors de la France. Et donc, nos premières collections étaient griffées, fabriquées à Paris. Assez vite, on s'est rendu compte que ce que l'étiquette en disait avec cette notion de fabriquer en France était un peu moins glorieux que la réalité, puisque les usines dans lesquelles on fabriquait avaient un pas de porte très coûteux, des loyers très coûteux, et donc les salariés de ces deux usines semblaient pas dans des conditions de travail idéales, dirons-nous. Donc avec Charles, on s'est posé la question de savoir si nos clientes seraient toujours aussi sensibles à Balzac si jamais nos produits étaient confectionnés peut-être encore un petit peu en France, mais aussi en Europe. Il fallait s'ouvrir les chakras sur l'Europe parce que le Portugal, par exemple, c'est un pays où l'univers du textile fait partie de leur histoire et donc ils ont un savoir-faire qui est exceptionnel depuis des générations. Et donc, on n'allait pas perdre en qualité, mais on allait pouvoir trouver des usines qui, justement, comme je l'ai dit, pourrait correspondre à l'ADN de Balzac Paris et nous suivre à plus grande échelle dans notre aventure.
Tu vas fréquemment en usine voir un petit peu les personnes qui travaillent pour toi ou tu n'as pas beaucoup de temps et tu délègues ça plutôt à tes équipes?
Au début, on y allait tout le temps avec Charles. On y allait tout le temps. C'est ce que je te disais. Nous, on est vraiment autodidactes et donc on a tout fait. Hein. Au début, j'ai aussi bien créé des chaussures qu'envoyé des colis. et pourtant, j'ai fait un Master 2 en communication, donc je suis absolument pas styliste.
J'irais même pas que tu es une bonne communicante.
Comment ?
Ça se voit que tu es une bonne communicante, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je regarde tes réseaux et je trouve que tu le fais très bien. La communication est très juste.
C'est gentil. Donc du coup, au début, on était tout le temps au Portugal et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a construit vraiment un lien très fort avec nos usines d'aujourd'hui qui aujourd'hui évidemment voient beaucoup plus les personnes de l'entreprise, que ce soit les stylistes, les modélistes, les chefs de produits, mais finalement comme chez Balzac, on est une grande famille. On les rencontre encore très souvent parce que eux viennent à Paris et font quoi qu'il arrive un tour dans nos bureaux et nous on va de temps en temps au Portugal avec Charles pour les voir. Donc, c'est une relation de longue date.
Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé dans les engagements, du coup.
Oui, et donc, du coup, on s'est envolé au Portugal avec Charles. On est allé voir ses usines. On leur a dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à nous suivre ? Nous, notre modèle économique fait que on a des collections éphémères en édition limitée. Donc, on a des plus petites quantités que nos voisins de chaîne de production qui sont des marques avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. En revanche, contrairement à eux, on va vous permettre de travailler tout au long de l'année parce qu'on a des petites collections qui vont se répéter et non pas deux très grosses collections qui vont arriver à des moments de l'année qui sont rythmées par les saisons, donc automne-hiver et puis printemps-été. Voilà, nous, on va vous faire travailler de manière très régulière. Et donc, ils nous ont dit, allez, tapez là, ça nous séduit, votre concept, c'est nouveau. Et puis, en effet, pour nous, c'est pertinent, c'est intéressant. Donc, ils ont décidé de se lancer, en fait, dans l'aventure avec nous, parce que Balzac Paris, autant vous dire qu'à l'époque, ça parlait pas à beaucoup de monde. Et donc, très vite, on s'est dit, en tout cas, nous, vraiment, notre tête motive, c'est d'être une marque responsable. Donc, on peut se jurer de ne jamais aller en dehors des frontières de l'Europe. En tout cas, le faire le moins possible, sauf si jamais on va chercher un savoir-faire vraiment exceptionnel qu'on peut pas avoir au sein de nos usines, on pourra se poser la question, mais c'est vraiment une valeur et une dimension qu'on souhaite suivre. Et en fait, cette histoire qu'on a écrite avec Charles et Victor dès le début, ça a permis de donner le ton à la suite, qui est que chacun au sein de Balzac Paris nous a rejoint avec cette dimension de « je vais rejoindre l'équipe Balzac parce que j'ai envie de donner du sens à mon travail ». J'ai envie de faire de la mode parce que c'est un univers qui me plaît, dans lequel je m'épanouis, et pour les stylistes, créativement parlant, ça me stimule. En revanche, j'ai envie de le faire différemment. Et de là est née cette notion de faire la mode autrement chez Balzac. C'est-à-dire qu'on va faire de la mode, mais on va la faire autrement, on va essayer de la faire toujours mieux. Et donc, chaque personne qui nous rejoint en interne peut donner ses idées, ses envies pour pouvoir avoir une dimension responsable très forte. Et je me souviens à l'époque, Maria Rosa, qui est notre styliste accessoire, elle avait dit à Charles et moi, vous savez, quand on va dans les usines, il y a toujours des chutes de tissu, des chutes de cuir qui sont inutilisées, que ce soit parfois un peu les nôtres, et puis bien souvent celles des marques pour lesquelles travaillent nos usines. Et là, ça nous a donné une idée. On s'est dit, on va créer une petite collection qui reviendra deux fois par an, qui s'appellera les chutes responsables, et pendant laquelle on va fabriquer les succès de la saison en cours dans les tissus restants dans les usines. Et ces produits, comme ils seront en édition très limitée, on va les proposer à prix plus doux à nos clientes. De là, donc évidemment, sont nés ce concept des chutes responsables qui ont été tout de suite un succès parce que la cliente était ravie d'avoir un produit Balzac un peu moins cher et au-delà de ça, en édition limitée. Et nous, ça nous a permis d'aller toujours plus loin dans cette dynamique responsable et surtout zéro gâchis parce que le déchet qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne fabrique pas. Donc voilà. Et en fait, tout ça a fait un effet boule de neige et a donné le ton pour la suite. Et c'est important de dire que vraiment, chaque personne qui nous rejoint en interne est vraiment profondément investie dans ses valeurs responsables parce que ça permet vraiment de faire grandir l'entreprise en ce sens. Et Balzac, c'est une entreprise à mission. Et c'est riche pour une entreprise d'avoir une vraie mission et surtout pour les personnes qui sont en interne parce qu'au moins, ça donne le ton sur la marche à suivre. Et ça, c'est pour dire que toutes les actions qu'on fait sont menées vraiment dans cette dynamique responsable, de laquelle est né un mouvement qu'on appelle TPR, qui veut dire toujours plus responsable. Ça veut dire que chaque action qui sont réalisées en interne sont faites autour de cette dimension TPR, toujours plus responsable.
Mais moi, je trouve ça génial, mais j'ai presque l'impression que c'est facile de faire de la mode responsable dans ton discours, alors qu'aujourd'hui, ce secteur d'activité est je crois que c'est le plus gros pollueur au monde, c'est celui qui a un impact environnemental le plus négatif, je crois bien. J'avais lu ça. Ouais. Comment tu peux expliquer cela ? Pourquoi les marques ne se mettent pas à faire de la mode responsable ? Est-ce que c'est un souci de prix ? Alors que toi, justement, est-ce qu'au début, t'as peut-être eu des problèmes parce que tu devais fixer des prix très hauts ? Voilà. Est-ce que tu as un avis sur la question ?
Oui, j'ai évidemment un avis sur la question. Déjà, de but en blanc, Balzac, c'est une marque de vêtements. Donc, par nature, on est un pollueur puisqu'on fabrique des produits dont on n'a pas besoin de manière vitale. Donc ça, c'est déjà un discours avec lequel on est à l'aise et on n'a pas de mal à le dire à nos clientes, comme je viens de te le dire aujourd'hui. Mais par contre, on décide de le faire différemment, de le faire mieux. Donc, dès le début de Balzac Paris, si tu veux, comme on a eu cette dynamique de fabrication d'abord française, puis ensuite européenne avec plus de 80% de notre production qui est réalisée au Portugal. On a toujours été au fait des prix, que ce soit les prix portugais sortis d'usine ou que ce soit les prix français. Donc, on n'est jamais tombé de notre chaise parce qu'on n'est jamais parti en Chine où là, il y a des prix qui sont parfois bien plus bas que ce qui est pratiqué en Europe. Et donc, obligatoirement, les marques qui font fabriquer en Asie font des marges beaucoup plus importantes. Nous, on n'a jamais eu à faire l'exercice inverse parce que comme on a toujours fait du Made in France ou du Made in Portugal ou du Made in Espagne, bref, peu importe tous les pays européens, on n'a jamais eu d'éléments de comparaison qui nous auraient fait dire « Tiens, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On pourrait faire des marges démentielles si jamais on était fabriqué en Asie. Le retour en arrière va être difficile. » Donc déjà, je pense que c'est ce qui peut expliquer que pour certaines marques, c'est difficile de revenir en arrière parce qu'elles ont fait des business plans sur justement toutes les marges qu'elles ont l'habitude de faire depuis l'historique de la marque. Donc, si jamais demain, elles décident de switcher d'usine, bah, ça va être compliqué pour elles peut-être de revoir tous ces business plans qui ont été évalués en fonction de leur taux de marge. Ensuite, il y a un autre élément. Elles sont peut-être dans des usines en Asie qui ont des capacités de production énormes. Quand nous, au Portugal, nos usines, elles ont des plus petites capacités de production, mais c'est aussi très en phase avec notre modèle économique parce que nous, comme on fait la chasse au stock, on va jamais produire énormément. On va vraiment faire des collections capsules avec des éditions limitées. Si le produit plaît et que la cliente est demandeuse, on va le produire à nouveau. Mais si jamais on se rend compte que le produit a plu, mais sans plus, il va pas être produit de nouveau. Donc déjà, on a une dimension stock qui est vraiment limitée de par notre modèle économique. Alors que d'autres marques, qui peuvent être des concurrents, elles produisent beaucoup plus, comme elles font des collections avec les saisons automne-hiver, printemps-été. Pour elles, ça peut être difficile de faire l'exercice inverse, parce que difficile de trouver des usines avec des capacités de production équivalentes à ce qu'elles ont actuellement. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est plus difficile de faire l'exercice inverse que ce soit quelque chose qui soit intrinsèque à tes valeurs, qui fasse partie de ton ADN de marque, et que de toute façon, tu sais que oui, faire un produit dans un tissu responsable, c'est plus coûteux et que donc tu réfléchisses d'un point de vue business, chiffres, avec toutes ces dimensions-là. Tu vois ce que je veux dire ?
Et justement, le côté réutilisation, tu sais, seconde vie des produits, toi, est-ce que tu vois ça comme un secteur concurrent, le fait que les femmes, ou enfin les hommes hein, maintenant, achètent de plus en plus, enfin de plus en plus, c'est pas encore très répandu, de produits déjà portés ?
Oui, c'est un secteur concurrent. Vinted, c'est un concurrent de Balzac. Tu pourras faire l'exercice, mais tu taperas Balzac Paris sur Vinted, tu verras que parfois, il y a même des produits qui sont vendus plus cher lorsqu'ils sont restés chez nous sur Vinted, parce que les filles savent que chez nous, il ne reviendra pas forcément. Et que comme il y a certaines filles qui sont inscrites sur les listes d'attente pour savoir si le produit va être oui ou non réédité, elles jouent sur cet aspect de rareté et vont le revendre plus cher. Donc, je te laisse imaginer.
C'est incroyable, tu crées du business, c'est bien, tu fais tourner l'économie, j'ai envie de te dire.
C'est un vrai sujet, la seconde main. Moi, je suis vraiment passionnée par ce sujet parce que déjà, moi, dans mon quotidien, que ce soit pour mes filles, j'achète énormément en seconde main, que ce soit
Moi aussi, de plus en plus.
Ou By Bamboo, qui est un autre site de seconde main pour enfants. Donc, obligatoirement, moi, c'est un exercice, enfin, je le fais très naturellement. Donc, on a plutôt tendance aujourd'hui à se poser la question de savoir si Balzac doit avoir son service seconde main plutôt que les filles le fassent sur une plateforme qui, en fait, peut devenir un concurrent. C'est une bonne question.
Tu l'as déjà vu, toi, d'ailleurs, des marques intégrer la seconde main ou pas du tout encore ? Ce serait un peu novateur.
Oui, il y a des marques comme Cyrillus qui le font, par exemple.
D'accord.
Petit Bateau, je me demande s'ils le font pas. Donc, tu vois, ça se fait pas mal, en fait, sur l'univers de l'enfant, j'ai le sentiment.
Ouais, bah, oui, puisque c'est un turnover assez incroyable. Exactement. Sur les enfants. Exactement. Déjà, entre mamans, elles surfilent les trucs. Donc, ça, c'est clair que c'est assez porteur. Mais c'est vrai que ça peut être envisageable, ça, je pense. Et est-ce que tu as vu une évolution de la demande? Parce qu'on voit quand même dans tous les secteurs d'activité un boom de la conscience écologique, etc. Et même là encore, le président Macron en parlait. Est-ce que toi, en termes de demande, tu sens que les gens sont prêts à investir pour quelque chose de plus éthique, quitte à mettre le prix, ou au final, tu vois pas vraiment cette évolution croissante?
Je vais te donner un exemple assez concret et assez récent. lors de la crise du Covid, on a décidé d'arrêter l'envoi de nos colis Balzac Paris, alors que notre entrepôt logistique, lui, continue à tourner. Le temps de voir comment la situation évoluait et pour protéger les gens en première ligne. Parce que Balzac Paris, on estime que pour être responsable, il faut vraiment être droit dans ses bottes et l'être sur toute la chaîne de valeur. Donc pour nous, c'était une manière d'affirmer cette dimension responsable et de dire, bon bah voilà, ok, pendant une période aussi particulière que le Covid, Balzac Paris va mettre en pause ses livraisons, le temps de voir comment la situation évolue. Et en fait, je pense que de l'histoire de Balzac, ça a été le buzz le plus positif de la marque, parce que les clientes ont écrit, que ce soit sur le compte de Balzac, mais aussi par WhatsApp, par téléphone et sur mon compte Instagram perso, ils nous ont envoyé des messages en nous disant « Bravo, plus que jamais après la crise de Covid et quand vous pourrez livrer de nouveau, quand vous l'aurez décidé, on viendra chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre, parce que c'est ça dont on a envie aujourd'hui, c'est d'une marque qui suit ses valeurs jusqu'au bout des ongles. » Et donc, c'est en ça que j'ai vu que oui, il y avait beaucoup de clientes qui, plus qu'un vêtement, elle venait vraiment acheter un état d'esprit, une philosophie de vie auquel elle avait adhéré. Donc, je pense que chez Balzac Paris, il y a une partie des clientes qui sont elles-mêmes engagées, renseignées et déjà éduquées à cette notion de responsable. Après, il faut bien évidemment être conscient que ce qui va d'abord séduire la cliente, c'est l'aspect désirable du produit. C'est pour ça que nous, on a vraiment à cœur de faire rimer désirable et responsable. Parce que dans un premier temps, on va séduire la cliente par la désirabilité du produit. Et ensuite, celles qui ne sont pas conquises par la dimension responsable, nous, on a vraiment à cœur d'aller les éduquer. C'est un terme fort, l'éducation. Mais je pense que vraiment, Balzac Paris a une carte à jouer sur la dimension éducative de la cliente, avec ces notions de moins laver son produit parce que c'est nocif pour l'environnement et puis pour la durabilité du produit, moins utiliser de produits... pour mettre dans sa machine à laver pour la planète, recoudre son bouton. On fait des ateliers où on apprend à nos clientes à recoudre son bouton, à rapiécer sa chemise, son pull, pour vraiment les accompagner dans cette logique de un vêtement responsable, c'est un vêtement qui dure dans le temps. Et nous, c'est vraiment notre fil rouge, c'est de produire des vêtements qui vont vraiment suivre les filles au fil des ans et des saisons, et même qu'elles pourront presque passer à leurs filles.
Donc, on n'a pas d'obsolescence programmée des produits de Balzac Paris.
Ouais, c'est non, clair. Non, c'est pas un programme.
Et toi, justement, tu me parlais de la crise du Covid, qui est encore, même si on espère en sortir, elle est encore un peu d'actualité. Est-ce que tu penses est-ce que tu as été impactée, toi, de ton côté, ou très fortement, ou finalement, il y a quand même encore eu des ventes ou...
D'un point de vue business ?
Ouais.
Bah écoute, je vais être hyper transparent avec toi. Quand on a stoppé les livraisons, évidemment, les gens qui avaient envie de recevoir leur paire de chaussures parce qu'ils étaient partis se confiner, je sais pas, dans leur maison de vacances et qu'il y a fait un temps, il faut se le dire, de plomb, ils n'avaient pas pensé à emmener leur paire de sandales, ils n'ont pas privilégié un Balzac parce qu'ils avaient envie de le recevoir maintenant tout de suite. En revanche... dès qu'on a rouvert nos livraisons, parce qu'on a envoyé une newsletter à nos clientes, en les invitant au comité de direction Balzac Paris, en leur disant « Voilà, vous êtes actrice de la marque, on a pris cette décision de fermer nos entrepôts, vous l'avez salué, maintenant on a besoin de savoir si vous êtes à l'aise avec le fait qu'on les rouvre, alors que la crise du Covid n'est pas encore derrière nous. » Et en fait, on a reçu un nombre de oui assez significatif, ce qui a fait qu'on a ouvert la livraison. Et là, on a vu un pic de commandes absolument délirant. Et pour te dire, on a lancé une vente dimanche il y a 2 semaines. Et historiquement parlant, c'est l'une des meilleures ventes de Balzac Paris depuis le début de notre aventure. Donc, on a eu une période de flottement, bien évidemment, parce que on avait décidé d'arrêter de livrer. En revanche, on a vraiment vu un boom des commandes dès que on a rouvert les livraisons. Donc, voilà.
Et justement, tu ne penses pas que les consommateurs vont aller vraiment vers des produits plus éthiques, avec des productions beaucoup plus centralisées qu'en Chine, justement ? Et est-ce que d'autres fabricants vont peut-être un peu essayer de recentraliser leur production ? Qu'est-ce que
tu
en penses ?
Je pense que si. Enfin, tu vois, là, par exemple, quand tu vois que le groupe Inditex va fermer plus de 1600 magasins, c'est énorme pour un groupe comme Inditex, parce qu'ils ont été frappés de plein fouet, je pense, par cette crise. Donc, obligatoirement, il y a des marques qui vont en pâtir parce que le client va être lui-même sensibilisé en un temps record on va dire grâce, même si c'est pas une bonne chose ce qui nous est arrivé, mais à cette crise du Covid qui a sensibilisé les gens sur la planète a besoin qu'on consomme mieux, qu'on consomme moins. Et en fait, il n'y a pas de petites actions. Chacun est acteur du changement. Donc si, je pense que les gens vont se tourner vers des marques comme Balzac.
Ouais, non, mais bien sûr. Et toi, justement, puisqu'on a beaucoup parlé de Balzac, toi, j'aime bien poser cette question-là à la fin de mon podcast. Bon, on a déjà évoqué quelques points. Tu es engagée comment au quotidien en tant que Chrysoline, maman de deux enfants? J'ai l'impression que tu es quelqu'un de quand même très engagé.
déjà, je suis très engagée en tant que créatrice d'entreprise. C'est-à-dire que vraiment, je suis heureuse que Balzac ait une vraie mission et je suis heureuse quand je fais passer des entretiens de voir que les personnes qui nous rejoignent ou qui ont le désir de nous rejoindre, c'est pour cette dimension responsable bien souvent. Et je te cache pas que quand en entretien, on pose la question de qu'est-ce qui vous motive à nous rejoindre et que c'est quelque chose qui ressort très rapidement, ça nous touche. Et c'est une excellente manière de recruter parce que ça fait des gens engagés en interne. Donc, en tant qu'entrepreneuse, je suis vraiment engagée. Et en tant que maman, j'essaye vraiment de donner cette même dynamique à mes filles, qu'elles puissent trouver leur manière à elles de s'engager. Et hier, on était à la plage avec Garance et Colombe, et puis Garance ramasse un papier par terre, et premier réflexe, je dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» rapport au Covid et qu'il faut quand même faire attention.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et là, elle me dit, mais enfin, regarde, il y avait ce papier par terre, je le prends pour le mettre à la poubelle. Et en fait, je me suis dit, canon, c'est chouette.
Tu te prends un peu de Covid en même temps. Non, mais ouais, trop mignon.
On s'immunise moins en ce moment, donc c'est pas mauvais.
Oui, oui.
Mais voilà, donc je trouve ça cool qu'elles aient elles-mêmes à leur échelle des petites actions comme ça qu'elles peuvent mener au quotidien et dont elles sont fières. Elles parlent souvent, quand elles voient des papiers par terre, du fait que la planète est mal au dos. Enfin, j'ai vraiment foi en cette nouvelle génération qui va arriver et qui a envie de faire bouger les lignes avec des parents qui les auront potentiellement sensibilisés à tous ces sujets. Voilà, je suis pas parfaite, loin de là. Malgré tout, j'essaye de mieux faire comme on essaye de faire au quotidien chez Balzac.
Et pour finir, quels sont tes prochains challenges, du coup, avec Balzac? Est-ce qu'il y en a de nouveaux, finalement, assurer la pérennité de la boîte? Ça peut être déjà un très bon challenge.
Ouais, déjà, c'est bien. Et puis, on y est arrivé pendant cette crise. Donc, on est content. Tout le monde est encore vivant chez Balzac. On peut se saluer vraiment d'avoir fait des chiffres qui sont record, donc on est trop content. Maintenant, on avait pour objectif d'ouvrir des boutiques. Donc ça, c'est notre prochain projet. Il est toujours dans le pipe et moi, il me motive énormément parce que je suis hyper contente de pouvoir faire vivre à mes clients une expérience en physique.
Bien sûr.
Où plus que jamais, on va pouvoir discuter avec eux.
Justement, puis aller les voir.
Ouais.
Aller les voir, je pense, aller les rencontrer.
C'est hyper important. On est vraiment... Tu sais, c'est vraiment les actrices de la marque. Elles sont vraiment au cœur de nos réflexions. Presque, elles participent au processus créatif de Balzac Paris. Donc, les rencontrer, pour nous, c'est canon. On est vraiment, on est trop contents. Et puis, déployer un concept qui transpire tout ce qu'on met comme action au quotidien, ça nous motive énormément.
Merci beaucoup, Chrysoline.
Merci, Alice. Merci à toi.
Merci pour ce témoignage. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, Podinsta et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Vous pouvez le commander, mais je sais pas si ça va marcher énormément. Et puis, vous pouvez aussi nous mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous donnerait un petit coup de pouce en matière de visibilité. Ça nous ferait très, très plaisir. Bonne journée à tous.